grâce à la thérapie que j'ai pu faire et puis voilà, cette prise de recul, je me suis rendu compte que finalement, à certains moments dans ma carrière, bah, j'avais été bien alignée et puis performante. Et puis d'autres moments, bah, j'étais à côté de mes pompes et pleine de croyances qui m'empêchaient quelque part de trouver mon vrai système de performance. Ça, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue parce qu'on a tous en nous un potentiel de fou, hein. En vrai, on a tous beaucoup de potentiel, mais tant qu'on ne l'active pas, ça reste quelque chose d'abstrait et c'est de la littérature.
Bonjour, je suis Guillaume Degvive, un grand fan de sport et un entrepreneur. J'ai cofondé Mocha.care, une solution de santé mentale au travail, et en me lançant dans cette aventure, j'ai rapidement réalisé que la santé mentale était encore un sujet tabou, souvent associé à la faiblesse. Chez Mocha.care, nous sommes convaincus du contraire. Dans ce podcast Les secrets du mental, nous allons à la rencontre d'athlètes de haut niveau, des champions et des championnes, pour montrer qu'une bonne santé mentale est nécessaire à la performance. J'admire la flamme qui les anime pour aller courir, nager et s'entraîner tous les matins. J'admire leur pugnacité, leur détermination pour aller décrocher des médailles et battre des records. J'admire leur résilience aussi, pour se remobiliser en plein match, rebondir après une défaite ou continuer leur chemin malgré les accidents de la vie. Je me suis toujours demandé d'où leur vient cette force, comment ils la nourrissent dans le temps. J'espère que leur parcours vous inspireront, vous fourniront des clés pour vous sentir bien au quotidien, ou tout simplement, vous permettront de rêver un peu. Bonne écoute. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Guillaume.
Alors, on a eu de la chance d'avoir plusieurs légendes des sports de montagne sur ce podcast. On a eu Alexis Pinturo, Tessa Wehrlein en ski, ou encore Charles Duboulot, que tu connais bien, donc en alpinisme. Et avec toi, on aura la chance de se plonger dans le monde du biathlon, qui est un sport assez particulier, qui est très physique, qui est excessivement technique, avec cette particularité de devoir se maîtriser parfaitement au moment du pas de tir, justement parce qu'à quelques millimètres, quelques centimètres près, ben la balle va toucher sa cible ou non. Et pour le rappeler à ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es toi-même une multimédaillée avec 2 médailles olympiques, 9 médailles mondiales, plus de 20 podiums en individuel et en équipe, en Coupe du Monde. Donc un très beau palmarès et on est content d'échanger avec toi aujourd'hui parce qu'après ta retraite, tu as également enchaîné ta carrière avec une carrière dans l'accompagnement mental. Tu vas accompagner des athlètes, mais pas que, tu vas aussi faire des interventions en entreprise. Et donc, je suis hyper intéressé d'avoir ton point de vue avec ta double casquette ben, d'ancienne athlète, d'ancienne championne, enfin toujours championne, mais sur les pistes et de personne qui est encore sur le terrain avec cet angle très mental. Alors, avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Donc, je m'appelle Marie-Laure Brunet, j'ai 35 ans. Le petit accent que vous entendez vient des Pyrénées, puisque je suis originaire de Bagnères-de-Luchon. Donc, c'est les Pyrénées centrales, juste à la limite de l'Espagne. Et aujourd'hui, je vis à côté d'Annecy, où j'ai rénové un corps de ferme avec mon mari. J'ai mon bureau là-bas, ce qui me permet de recevoir les personnes que j'accompagne, aussi bien des athlètes, des entraîneurs, des directeurs sportifs, mais aussi des personnes du monde de l'entreprise pour les mettre en immersion dans mon univers. Parce que tu vas comprendre que... la nature, la montagne, c'est quelque chose qui est important dans mon équilibre et qui fait vraiment partie de ma vie. Donc voilà, si je peux me définir en quelques mots, c'est ça. Et je suis aussi maman d'une petite fille qui a 1 an et demi.
Et alors, pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de santé mentale aujourd'hui ?
La santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est un sujet qui me passionne aujourd'hui, mais aussi qui m'a fait défaut sur la fin de ma carrière d'athlète, puisque j'ai une carrière d'athlète, on va dire, particulière, dans le sens où j'ai été performante très tôt. J'ai gagné mes 2 médailles olympiques à l'âge de 21 ans, et 4 ans après à Sochi, j'ai terminé ma carrière en burn-out sur une civière pendant le relais olympique, on en reparlera. Et donc, clairement, ça a été compliqué pour moi d'identifier quels avaient été mes leviers de perf, mais aussi mes limites. Mmh. Et a posteriori, une fois que j'ai pris le temps de comprendre ce qui s'était passé, j'ai compris que là, on était vraiment sur le sujet de l'intégrité physique et morale. Et donc, c'est ce qui m'a amené aussi à me pencher sur la question de la santé mentale. Et aujourd'hui, vraiment, ce que je prône, c'est la performance durable. Ça veut dire performance et bien-être.
Alors, j'ai vraiment hâte qu'on y revienne tout à l'heure sur, en effet, comment est-ce que tu fais pour trouver le bon équilibre entre je pousse vers plus de performance et en même temps, je ne vais pas me brûler, je ne vais pas arriver jusqu'au burn-out. Mais avant ça, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur tes débuts dans le biathlon. Comment est-ce que tu en es arrivé, tu vois, à devenir biathlète, à en faire ton métier, ta passion ?
À la base, moi, j'ai grandi dans une famille avec des parents sportifs. Ma sœur aussi faisait du sport, mais on était plus sur du sport plaisir, avant tout des amoureux de la nature et de la montagne, comme je le disais en introduction. Finalement, mes parents m'ont fait découvrir le ski de fond. Donc, petite, j'ai fait du ski alpin et du ski de fond. Et rapidement, je me suis orientée vers le ski de fond. parce qu'en fait, ça ne m'intéressait pas de faire la queue remontée mécanique. Je trouvais que c'était plus rapide en skiant. Et donc, je me suis orientée vers le ski de fond. Et puis, un soir de février 2002, c'était pendant les Jeux de Salt Lake City. Ouais. Mes parents m'ont autorisé à regarder la télévision un peu plus tard que d'habitude. Et là, je découvre le biathlon grâce à Raphaël Poirier qui venait de décrocher une médaille pour la France.
D'accord.
Et là, vraiment, je me dis, mais c'est génial, je fais déjà du ski de fond, j'ai plus qu'à me mettre au tir. Donc en fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai tout mis en place pour me diriger vers ce rêve. Ce qui fait que la rentrée scolaire qui a suivi, je suis partie à Font-Romeu, parce que là-bas, il y avait un sport-études, et c'est le seul endroit dans les Pyrénées qui proposait le biathlon, en fait, à ce moment-là.
D'accord.
Là-bas, je rencontre Martin Fourcade. Donc on a
une rencontre que tu as qualifiée de décisive dans ta vie.
Ouais, je pense que c'était une rencontre décisive, parce qu'il se trouve... que Martin a un frère aîné, Simon, qui lui était déjà dans le Vercors.
Ouais.
Et finalement, on s'est dit, on va faire comme Simon. Souvent, en fait, les frères et sœurs suivent les aînés, quoi. Et donc, ouais. Nous, on s'est dit, on va suivre Simon. Et ce qui fait que, pour notre lycée, on a candidaté au Pôle Espoir de Villard-de-Lans pour justement aller trouver une structure qui nous permettrait de vraiment développer nos compétences en biathlon et aller vers notre rêve. Ça a été décisif.
Et alors, tu l'as dit en introduction, très vite, tu vas te retrouver à performer, à avoir des très bons résultats. Et notamment en 2008, tu as ta première médaille mondiale par équipe lors des championnats du monde d'Östersund. Tu dis que cette course fait partie de tes tops en termes d'émotion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
C'est vrai que ces mondiaux d'Östersund, c'était mes premiers championnats du monde senior. J'étais encore junior à ce moment-là. Je venais de disputer les championnats du monde junior peut-être une semaine avant.
Ouais.
Et donc là, j'enchaîne direct et j'arrive à aller chercher une médaille avec mes coéquipières qui étaient aussi des filles que je regardais à la télévision un an avant. Quoi. Donc,
c'est un peu impressionné.
À la fois impressionné et j'ai beaucoup appris grâce à elle. En fait, moi, je me suis retrouvée dans une équipe de France à cheval entre cette génération de Sandrine Bailly, Sylvie Beckert, Vincent Defrane. Et puis la génération Marie Dorin, Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier. Donc c'est sûr que pour moi, ça a été super intéressant de me retrouver à ce moment-là. J'avais pas 20 ans encore. Et d'aller chercher une première médaille chez les seniors. Et en fait, je me souviens clairement que pendant ces mondiaux, je me suis retrouvée dans les skis des meilleurs, les Allemandes, les Russes. Et souvent, on se dit que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte qu'on est capable de le faire. Et là, en étant dans les skis des autres, je me suis dit, oui, en fait, je suis capable de tenir ce rythme-là. Donc, ça a été un élément important dans ma carrière.
Dans la construction de ta confiance en toi, en fait.
Oui, clairement. Parce que je me suis rendu compte que, oui, j'étais capable d'aller rivaliser avec les meilleurs mondiales.
Et alors, ce sport, on a parlé rapidement, c'est un sport particulier. Il y a cette dualité entre l'énorme effort physique que représente le ski et le pas de tir, où il faut réussir à, j'imagine, baisser son rythme cardiaque pour... tirer de manière très précise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Alors, je pense que la particularité du biathlon, c'est justement d'avoir ces deux disciplines antagonistes.
Ouais.
Le ski, il faut aller très vite. Donc, effectivement, il faut aimer avoir le goût du sang dans la bouche et le cœur très fort. Et puis, on arrive au pas de tir et là, il faut être en capacité de switcher. C'est vraiment quand on est sur les skis, on est skieur. Et quand on arrive au pas de tir, le chrono continue de tourner. Et pourtant, il faut arriver à se calmer, à revenir dans un état beaucoup plus serein et posé. Pour autant, le cœur continue à battre fort puisqu'on passe moins de 30 secondes sur le pas de tir. Donc, le cœur, il ne passe pas de 190 à 150. Et en fait, quand on regarde le biathlon, on croit que le plus compliqué, c'est de gérer le tir essoufflé. Et en fait, ça, c'est à ce niveau-là, en Coupe du Monde, ce n'est pas le point le plus compliqué puisque ça s'entraîne. Et en fait, ce qu'on a du mal à voir, à se rendre compte quand on est spectateur, c'est toute la dimension mentale et la gestion de toutes ces émotions, ce flot d'émotions qui arrivent en permanence, en 30 secondes sur ce pas de tir. Et en fait, toute la dualité, elle est là-dedans. C'est dans comment je gère ces émotions qui viennent essayer de me perturber, de me sortir de ce que j'ai à produire.
Oui, parce que nous, quand on regarde, déjà, c'est plus confortable dans son canapé, avec les commentateurs, on est là, genre, c'est important, là, il faut absolument que ça soit un tir parfait. Et puis, on voit les tirs les uns après les autres, c'est bon, ah, il y a un loupé. Et donc, on sent, même nous, en tant que spectateur, alors que, en tant que spectateur, l'enjeu est quand même assez limité, on se sent un petit peu tendu, on se crispe presque sur le canapé. Comment est-ce que toi, tu fais pour faire taire, en fait, un peu ces pensées parasites, faire le vide dans ta tête?
Alors moi, c'est vrai que j'ai eu cette faculté. Alors déjà, j'ai été très bien formée par un entraîneur qui, quelque part, était notre coach mental. Quoi.
Enfin, d'accord. Sans en avoir le nom, il l'était,
c'est ça? Ouais, c'est vraiment Thierry Ducerne, cet entraîneur. Vraiment, il nous a amenés pendant les séances d'entraînement à toucher nos limites psychologiques. Il était très exigeant et en fait, ça nous a beaucoup formés. Et je pense que j'ai eu cette capacité, en arrivant sur le pâtir, déjà à faire confiance à mes points techniques. Ouais. Parfois, j'accompagne aujourd'hui sur le plan mental des biathlètes. Ouais. Et parfois, ils vont faire allusion à leur coup, le placement de leur coup, des trucs comme ça. Et pour moi, ça, c'est anecdotique. À ce niveau-là, en fait, tout ça, ça vient se faire instinctivement puisqu'on l'a répété et travaillé. Ouais. Je veux dire, un geste technique, à ce niveau-là, il est intégré. Et donc ça, moi, j'ai réussi à le mettre de côté, à faire confiance à ce qui venait spontanément parce que je l'avais entraîné à l'entraînement.
D'accord.
Et je me concentrais... quand j'arrivais sur le pas de tir, pour moi, c'était un jeu. Donc, j'arrivais avec le plaisir d'aller jouer derrière ma carabine. Et okay. Ça, c'est la différence. Il y en a beaucoup qui arrivent avec la peur de qu'est-ce qui va m'arriver,
ouais.
Combien de tours je vais faire, tours de pénalité.
Ouais.
Moi, déjà, je me disais, en fait, je vais aller m'amuser. Donc déjà, l'état d'esprit, il est différent. Et à partir de ce moment-là, je me concentrais sur 2-3 points techniques qui, par effet ricochet, allait m'amener à construire mon tir parfaitement pour aller basculer ces 5 cibles.
Ok, et alors comment est-ce que tu fais pour arriver avec du plaisir? Parce que c'est difficile d'arriver avec du plaisir quand tu as quand même pas mal d'enjeux, il y a peut-être une place, une médaille mondiale qui se joue, ça se joue à quelques secondes, enfin, c'est difficile.
Mais en fait, au moment de rentrer sur le pas de tir, je faisais totalement abstraction de l'enjeu de la compétition. Et je focalisais toute mon attention sur l'environnement, donc prendre des informations. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, je ne vois pas ce qui se passe autour. Je vois très bien ce que la concurrence est en train de faire. Je prends des infos pour, moi, après, adapter mon tir. Savoir si je vais tirer vite, si j'attaque ou si, au contraire, je distille les balles et je fais juste un tir posé pour faire le plein. Donc, il y a cette histoire de lucidité. Et après, une fois sur le tapis, je fais abstraction de tout le reste. Et là, je me concentre sur être la plus propre et la plus efficace possible, sans jamais penser au résultat où, là, je suis à 15 sur 15 et il faut que j'aille chercher le 20. Parce que là, c'est le meilleur moyen de ne pas le faire. Quoi. Ouais. Donc, c'est souvent ce que je dis sur un tir, par exemple, d'une poursuite où il y a 4 tirs,
ouais.
Donc 4 fois 5 balles, ben, c'est je tire 5 fois une balle et ça, je le fais 4 fois.
D'accord.
Donc, la démarche, c'est vraiment du balle par balle. Et je mets la même exigence, la même rigueur jusqu'à la dernière.
Donc, finalement, tu vas mettre toute ton énergie dans ce que tu es en train de faire plutôt que d'essayer de penser à l'enjeu. Et le fait de penser uniquement à « je tire ce coup-là », ça te permet de penser à rien d'autre puisque tu as mis toute ton énergie dans « il faut que celle-là, je la mette », il faut que c'est... ou pas le « il faut que » du coup.
Ouais, en tout cas, mais... je mets les choses en place pour la mettre. Mais en fait, juste ça demande beaucoup d'énergie mentale.
Ouais.
Et c'est, je me rends compte, très dur à mettre en place de manière répétée sur 3 courses par semaine, pendant 3 semaines, toute une saison.
Oui.
En fait, ça, c'est un vrai défi mental. Et du coup, ouais, ça prend beaucoup d'énergie.
Et comment tu fais alors pour recharger ton énergie mentale?
Moi, j'avais un gros besoin de solitude. Je faisais partie d'une équipe, l'équipe de France, où j'avais vraiment des équipières qui étaient mes rivales, mais aussi mes amis. Et je pense qu'on a eu cette chance de bien comprendre comment chacune fonctionnait pour respecter les besoins de chacune. Et moi, j'avais besoin du collectif, mais aussi j'avais par moments besoin d'être seule. Et c'est souvent que j'allais marcher, m'oxygéner dans la forêt ou près des lacs quand il y en avait sur les lieux de compétition pour justement remonter les niveaux, pour être capable d'aller au combat, au fight sur chaque compète.
Et j'ai vu aussi dans une interview que tu parlais de visualisation la veille d'une course. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, donc en fait, sans le savoir, je faisais ce qu'on appelle de l'imagerie mentale. Puisque chaque veille de course, justement pendant ces moments où j'allais m'oxygéner... dans la nature, en mouvement, je faisais ma visualisation à la fois de mon parcours sur les skis pour bien identifier tous les points clés de la piste et tous mes passages au pas de tir. Et en fait, je continue à la visualisation jusqu'à ce qu'elle soit impeccable. Parce qu'en fait, encore une fois, notre petit démon là, dans la tête, il essaie de nous faire voir une balle qui sort, quoi, un truc comme ça. Et donc, en fait, j'ai appris à vraiment visualiser le tir que je voulais produire. Et ce qui m'a amené à faire des visualisations impeccables de ce que je voulais produire. Et en fait, en faisant ça, déjà, quelque part, on vient conditionner notre cerveau et du coup, nos actions à ce qu'on a envie qu'il se passe. Et ça, c'est vraiment important parce que la pensée va créer l'action. Et donc, c'est important d'être vraiment dans quelque chose de positif, de ce qu'on a envie de voir émerger.
Je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir des rendeurs du sport. presque dans la vie de tous les jours.
Ah, je m'en sers encore, du coup, pas pour mes tirs, mais en tout cas, d'être dans une projection positive de ce que j'ai envie qu'il se passe.
C'est quoi la dernière fois dans ta vie de tous les jours, là où tu l'as utilisé?
Bah, tu vois, quand j'ai préparé ma venue pour le podcast, de m'imaginer vraiment que c'était fluide, que j'étais...
Okay.
parce que en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un temps fort où je sais que je vais devoir être présente, avoir donné de l'énergie... J'ai ce moment où je me mets dans ma bulle et je me conditionne pour être vraiment présente et être dans la bonne dynamique pour passer ce que j'ai à passer. C'est aujourd'hui avec toi, c'est demain j'ai une formation avec des directeurs sportifs et des entraîneurs.
Ouais.
Et c'est des moments qui sont importants et je me dois d'être pleinement là. Donc, c'est quelque chose que je prépare aussi. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je transpose ce que j'ai mis en place dans le sport, dans ma vie professionnelle et même dans mes activités parce que je fais pas mal de montagne et d'alpinisme. Et donc, ça me sert aussi dans ces moments-là.
Oui, je me disais, cette visualisation, moi aussi, j'essaie de le faire dans ma vie de tous les jours parce que je trouve que ça met en confiance, parce qu'on s'imagine en train de réussir à faire quelque chose. Et donc, inconsciemment, on est en train de se dire « Ah, du coup, je peux le faire », même si ce n'est pas forcément vrai, que si dans sa tête, c'est passé et que ça va bien se passer. Mais en tout cas, je trouve que l'image rassure, met en confiance et du coup, la pression redescend. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Ouais, je pense que ça permet de se projeter dans un état émotionnel qui va être propice à atteindre nos objectifs, peu importe leur nature. Mais par contre, ce que j'aimerais dire, c'est je pense qu'au-delà de visualiser la finalité, c'est important de visualiser le chemin, le parcours. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour atteindre cet état final? Ça, c'est important.
Donc, si finalement, je file la métaphore sur où je prends la comparaison avec une prise de parole en public, ce ne serait pas uniquement s'imaginer être à l'aise à parler devant 500 personnes, mais je monte sur scène, je me vois en train de monter les marches, prendre le micro, vérifier qu'il fonctionne bien, commencer à regarder l'assemblée, prendre une respiration et là, commencer à parler. C'est ça, c'est tous ces petits gestes.
Ouais, je pense que c'est ça parce qu'on est vraiment dans l'action à ce moment-là de ce que j'ai à mettre en place. En fait, finalement, on est dans la stratégie, clairement, de ce que j'ai à mettre en place pour atteindre un résultat convenable pour ce qu'on s'est fixé. Et si on va plus loin, tu vois, quand j'ai des athlètes en accompagnement mental à proximité d'un grand événement, par exemple, je vais les amener je vais les questionner sur les conditions, tout ce qui doit être mis en place pour être performant le jour J. Et c'est pas juste au moment de la course, c'est tout ce qui se met avant.
Alors, je voulais qu'on parle des Jeux de Sochi en 2014 et qui ont marqué un tournant dans ta carrière. C'est notamment ta dernière course. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là?
Donc, les Jeux de Sochi, ce n'était pas du tout prévu que ce soit mes derniers Jeux olympiques. J'avais prévu d'aller jusqu'en 2018 aux Jeux de Pyeongchang. Donc, c'était une saison compliquée pour moi. J'étais en surentraînement, mais ce n'était pas la première saison où j'étais en surentraînement. En réalité, j'étais en surentraînement depuis la saison 2011.
Ouais.
Donc, j'ai bien pris sur moi.
Quand tu dis surentraînement, c'est-à-dire que t'étais...
Alors, le surentraînement, c'est comme le burn-out. C'est un peu des mots fourre-tout. Moi, ce qui s'est passé concrètement, c'est que, on va dire, mon niveau de performance s'est dégradé. D'accord. Et j'avais vraiment des signes de surentraînement puisque j'avais... au niveau des hormones, tout était déréglé. J'avais le cortisol très haut. Pour ceux qui connaissent, c'est une des hormones qui permet de mesurer justement le taux de stress, de surentraînement. Donc en fait, voilà, ça n'allait pas et ça se voyait au niveau de mes performances. Mais je compensais par le mental.
D'accord.
Et donc, comme je suis plutôt de nature optimiste, je m'accrochais parce que je n'avais pas envie de voir ce qui se jouait réellement. Donc je m'accrochais à ce qui se passait bien. Donc dès qu'il y avait quelque chose qui se passait bien, je me disais « tout va bien ». Donc, j'ai fait l'autruche jusqu'à cette course des Jeux de Sochi qui était le relais féminin. Donc, le relais, il vient vraiment à la fin du programme olympique. Nous, on a 6 courses à ce moment-là. Et le relais féminin, c'est la dernière course. On fait partie des favorites puisque les 2 derniers Jeux olympiques, le relais féminin est allé chercher des médailles. Donc, clairement, on fait partie des favorites. Moi, je dois lancer ce relais. Donc, j'étais première relayeuse. Un rôle qui me convenait très bien puisque finalement chaque relayeuse doit avoir des compétences par rapport à l'ordre dans lequel elle va passer le relais. Moi, mes compétences à ce moment-là, c'était de partir vite, me mettre rapidement devant, me frayer le chemin, bien passer les tirs et normalement je lançais bien le relais, quoi. Sauf que ce jour-là, déjà avant le départ, je sens que c'est pas la grosse forme, mais c'était pas nouveau, mais quand même je le dis à mon entraîneur qui me dit « t'inquiète, ça va aller ». En fait, je pense que je n'ai pas du tout été entendue, mais parce que personne ne savait vraiment quoi faire. Et ça faisait des mois et des années que ça durait. Et que tout le monde se voyait la face. Sauf que ce jour-là, donc le départ est donné, c'est un coup de pistolet, on part toutes en mastart, toutes ensemble. Et là, ben, en fait, je suis au taquet. Donc, c'est vraiment comme dans un mauvais rêve. Déjà, je me voyais par en haut. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on se voit par en haut, ce n'est pas bon signe en général. Donc, je me voyais en métaphysique. Et je voyais que j'étais à fond, mais en fait, j'avais du mal à suivre les autres filles. Là où normalement, j'étais sur le devant de la course. C'était plutôt moi qui mettais le tempo en général. Et là, en fait, j'avais du mal à suivre. Donc, je fais le premier tour comme ça, vraiment en galérant. J'arrive au pas de tir, je mets les 5 balles. Je ne sais même pas comment, parce que j'étais même plus lucide, mais ça vaut le coup de s'entraîner, de répéter les choses. Ouais. Et je repars du pas de tir. Et en fait, derrière le pas de tir, il y avait une grosse montée qui était vraiment la difficulté principale de ce parcours, parce que 2 km, ça va très vite. Et là, en fait, mon corps s'effondre. Donc, je dis mon corps, parce que là, à ce moment-là, je ne décide plus de rien. Et je m'effondre sur la piste. Et en fait, je suis évacuée en civière. Et donc là, c'est vraiment la désillusion parce que déjà, ben, pour moi, là, c'est vraiment le coup de massue. Et en plus, c'est le double effet qui se coule parce que j'ai mes copines qui sont dans l'air de départ en train de s'échauffer. Et elles n'ont jamais pris le départ, quoi. Et on est aux Jeux Olympiques. Donc là, c'est vraiment compliqué. Et en fait, à ce moment-là, un médecin a voulu parler de malaise vagal, sauf que malaise vagal à l'effort, en général, ça ne se produit pas. Et en fait, on ne savait pas vraiment ce qui se passait, quoi. Mais là, ce moment-là, ça a été un moment clé dans ma vie parce que ça peut être perçu comme un échec, vraiment une sortie de piste. Et finalement, c'est ce qui m'a permis de dire « Ok, là, je suis obligée d'arrêter de faire l'autruche, de regarder ce qui se passe et de prendre des décisions. » Donc voilà, chemin faisant, je ne savais pas à ce moment-là, mais ça a été la dernière course de ma carrière puisque 3 mois après, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de biathlète.
Bon, merci de nous avoir partagé ça.
Désolé d'avoir plombé l'ambiance. Mais...
Non, pas du tout. À l'inverse, nous, dans ce podcast, on veut parler des bons moments. On veut aussi parler des moments plus difficiles. Je pense qu'ils font partie de la vie d'un athlète.
Ah, il y en a beaucoup. Hein. On n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup de moments difficiles. Et après, la faculté du cerveau humain, c'est plutôt de retenir ou en tout cas de se remémorer plus facilement les bons moments. Donc, c'est aussi une chance. Mais je pense que c'est important de savoir parler avec sincérité des moments compliqués.
Donc d'autant plus, merci de le faire avec nous. Tu as dit que tu avais senti des signaux un peu depuis plusieurs années, que le mental allait compenser, que le corps était un petit en surentraînement. Est-ce que avec le recul, tu as réussi à identifier les signaux qui auraient dû alerter davantage?
Ouais, et puis je vais vous partager en tout cas les signaux que moi j'ai identifiés, mais qu'on peut de manière plus générale identifier, qu'on soit sportif ou non, puisque ce sont les mêmes quand on est cramé, hein, qu'on soit athlète ou pas. Je pense que les premiers signaux, c'est la cogitation, c'est on commence à tourner en rond dans sa tête. Donc voilà, le cerveau qui s'arrête pas, du mal à s'endormir, des réveils nocturnes. Donc déjà, quand le sommeil commence à se dégrader de manière continue, là, c'est quand même un point de vigilance parce qu'on va entrer, c'est le signe qu'on rentre dans une fatigue chronique qui est installée. Oui. Il y a ça. Après, ça peut être aussi la perte de plaisir, pas envie d'aller à l'entraînement, alors que normalement, on est des passionnés, donc l'entraînement, ça nous plaît. Moi, j'avais mal aux jambes. À peine je montais 3 marches, j'avais mal aux jambes. Donc là, c'est quand même un stade bien avancé du surentraînement. Donc imaginez, j'avais mal aux jambes en montant quelques escaliers. Donc pour aller faire une course, c'était vraiment douloureux. Et c'est pas la bonne douleur, hein. C'est pas celle, les jambes qui font mal quand on va vite, quoi. Là, c'est le truc où c'est chargé et y a rien à faire, quoi.
Parce qu'il y avait, trop de tes muscles qui avaient été trop sollicités ou c'est,
non, mais là, c'est quand
un peu de psychosomatique.
C'est clairement qu'au niveau hormonal, tout est déréglé, donc en fait, la récupération ne se fait pas, quoi.
D'accord.
Donc ça, plus enchaîner de la charge d'entraînement, ça marche pas bien, quoi.
Oui, tu prends l'énergie et t'as pas ces moments pour te ressourcer qui font que tu vas retrouver un équilibre.
Je pense que l'image, c'est vraiment, il faut s'imaginer une citerne. Ouais. Puis moi, je tape dedans parce que je suis vraiment engagée, rigoureuse. Voilà, ça, c'était ce qui me, c'était mes drivers, c'est ce qui me motivait. Ouais. Et en fait, je prends jamais le temps de re-remplir cette cuve. Et petit à petit, il y a un déséquilibre qui s'opère. Et une fatigue chronique qui s'installe. Et là, après, pour l'enrayer, en fait, ça demande du vrai repos, chose qui était impensable pour moi à l'époque. Donc, les signes, ils sont ceux-là, quoi. Et puis après, ça se vérifie d'un point de vue hormonal. En faisant des prises de sang, on voit que ça ne fonctionne pas. Et nous, on est aussi, en tout cas en biathlon, et puis comme pas mal de sports d'endurance, il y a un suivi qui est fait au niveau des tests HRV. Ouais. Donc, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Et ces tests-là, ils permettent en fait de monitorer le système parasympathique et orthosympathique, et du coup de voir quels sont les niveaux d'énergie. Et moi, clairement, en fait, tout les voyants étaient au rouge, mais on n'a pas voulu, quand je dis on, c'est moi, c'est mon entourage, ouais. On n'a pas voulu voir ce qui était en train vraiment de s'opérer, quoi. Donc, on allait loin.
Oui, donc j'aime beaucoup cette notion d'effet de système sympathique et parasympathique, et prendre conscience que son corps a des moments où il est en exercice, il va être en tension, il va prendre de l'énergie, il doit aussi avoir des moments où il récupère de l'énergie. Et quand on est en situation de stress, où on va, tu en as parlé tout à l'heure, sécréter beaucoup de cortisol, donc on va beaucoup plus activer un système que l'autre, et si on n'arrive pas à réactiver le système qui permet de revenir à l'équilibre, en fait on sursollicite sur le long terme son corps, et au bout d'un moment on a tellement de cortisol dans le sang qu'on n'arrive même plus, et dans certains cas, c'est un burn-out, c'est le cas, à même se lever de son lit le matin, parce que physiquement, c'est devenu impossible. C'est même plus une question de volonté, c'est même plus une question de mental ou pas, c'est le corps dit stop, parce que le corps n'a plus la capacité physique de se lever.
Oui, en fait, le corps, il est intelligent, et donc à mon avis, il va prendre le relais sur le mental. Et là, pour moi, c'est vraiment comme un disjoncteur d'une maison où en fait, les fusibles pètent, parce que là, ça devient insoutenable. Et c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi.
Et ce que je trouve difficile avec quand on est athlète de haut niveau, c'est que la douleur physique fait partie du job quelque part. Tout à l'heure, tu as dit, en décrivant le biathlon, il faut avoir le goût du sang dans la bouche, une expression qui est pas anodine. On a eu sur ce podcast Camille Lacour qui nous racontait que pendant ses 15 ans de haut niveau, en fait, il s'est rendu compte qu'après, que c'était pas normal d'avoir des courbatures tous les jours, qu'il avait découvert un monde sans courbatures. Après avoir arrêté les bassins à haut niveau. Comment est-ce qu'on fait ? Je pense que c'est la question un peu hyper dure à résoudre, et je me dis qu'il n'y a pas de vérité, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir, là, je suis en train de repousser mes limites, je suis en train de progresser, je suis en train de me rapprocher de mon rêve, je suis en train de me rapprocher de la très haute performance, ce que je veux aller chercher. Deux, là, je suis en train de puiser dans ma citerne, je suis en train de puiser dans mes réserves, et là, en fait, petit à petit, sans me rendre compte, je suis un peu en train de me cramer.
En fait, je pense que c'est compliqué pour un athlète qui a la tête dans le guidon d'avoir ce recul-là. Moi, c'est ça, en fait. C'est que je n'ai pas eu ce recul parce que c'était compliqué pour moi d'envisager d'autres manières de faire. Et c'est pour ça aussi que je fais ce métier-là, parce que finalement, à ce moment-là, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait accompagné, qui m'avait aidé à imaginer d'autres façons d'être performante, de m'éclater dans ma vie d'athlète et ma vie de femme, alors certainement, les choses auraient été différentes. Et donc, je pense que c'est compliqué pour un athlète d'avoir la maturité, d'avoir ce recul-là. Et c'est là où c'est important que l'entourage, notamment les entraîneurs, tous les staffs, soient formés ou en tout cas qu'ils aient des outils pour accompagner les athlètes à sentir ça et à les aiguiller. Et en fait, c'est le rôle aussi, mon rôle en tant qu'accompagnatrice mentale, quand j'accompagne des athlètes de haut niveau, c'est de les amener à considérer les choses pour qu'ils puissent être performants dans une vie qui est épanouissante et équilibrée. Pour moi, ça, c'est vraiment la base. En fait, on doit garantir l'intégrité physique et morale des athlètes. Et un athlète, parfois, il n'est pas capable de le faire tout seul. Donc, et aujourd'hui, les choses évoluent. Il y a de plus en plus d'entraîneurs. Les nouvelles générations d'entraîneurs sont demandeuses d'être outillées sur toutes ces notions d'accompagnement mental. Les équipes mettent des choses en place. Et donc, voilà, je pense que ça progresse. Mais oui, je pense que ce n'est pas toujours facile pour un individu dont la motivation principale est d'être hyper performant, d'avoir ce recul, parce qu'en fait, parfois, ça vient en contradiction avec des croyances, des valeurs, d'où la nécessité d'être accompagné.
Et donc toi, tu ressens ces évolutions dans le biathlon, dans le monde du sport, parce que tu n'es pas que dans le biathlon aujourd'hui. Tu ressens ces évolutions ? Il y a un changement de mentalité, un changement de regard par rapport à la santé mentale, ou ça reste un peu marginal finalement ?
Alors bon, moi, pour être honnête, j'accompagne une vingtaine d'athlètes dans 15 disciplines différentes. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait un panel varié et large. Et ce que je peux dire, c'est que oui, ça dépend et des disciplines et des structures.
Ouais.
Mais je pense que aujourd'hui tous ensemble, en fait, on contribue à ce que ça devienne plus facile de se dire oui, je vais me faire accompagner sur plan mental, parfois par un psychologue, parfois par un accompagnateur mental, ou les deux, parce que ça dépend des moments. Tout à l'heure, tu m'as demandé pourquoi j'ai accepté de venir témoigner aujourd'hui et de parler de santé mentale ici avec toi, c'est pour ça en fait. C'est qu'en parlant à la fois de mon expérience, mais aussi d'aujourd'hui ce que je vois et ce que je mets en place avec des athlètes de haut niveau, et aussi avec les staffs, puisque j'accompagne aussi les staffs, et ça, c'est important, et ben, c'est de le, quelque part, le vulgariser. Et aujourd'hui, l'aspect mental psychologique fait partie intégrante de la perf, au même titre que la préparation physique. Là, en tout cas, moi, c'est ma vision, si je prône ça, là où, voilà, pour certaines, dans certaines disciplines, c'est pas encore le cas, et petit à petit, on y vient. Donc, moi, je suis plutôt dans une dynamique où je me dis, des choses se mettent en place, il y a encore du chemin à faire, mais ça tombe bien, on a aussi plein d'années devant nous, donc moi, ça me motive, j'ai plein de projets en tête.
Et alors, tu as fait donc ton burn-out à 25 ans. Comment est-ce que tu as réussi à rebondir ? Parce que on dit que c'est souvent un chemin de reconstruction, étape par étape. Comment est-ce que toi, ça s'est passé ? Et j'imagine que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont vécu des burn-out, qui sont en train de vivre un burn-out. Quel conseil aussi tu auras envie de partager, tu vois ?
Alors souvent, ce que je dis, c'est que déjà, pour se remettre d'un burn-out, il faut autant de temps minimum, voire plus de temps que ce qui nous a conduit au burn-out. Donc, en gros, soyez patient.
D'accord.
Non, ça, c'est important parce qu'on croit que tout va aller mieux du jour au lendemain. Et ça, c'est une illusion.
Il faut accepter que ça prenne du temps.
Ouais, il faut accepter que ça prenne un peu de temps. Parce que physiquement, psychologiquement, en fait, on allait tellement loin que ça prend aussi du temps pour se reconstruire. Donc, moi, c'est clair que la première étape, ça a été de décider d'arrêter le biathlon.
Ouais.
Et ça, ça a été compliqué parce que pendant 3 mois... j'étais vraiment à 50-50, quoi. Il y avait un jour où je me disais, allez, je continue. Donc, en fait, je mettais tout en place comme si je poursuivais ma carrière.
Ouais.
Et après, je me disais, non, j'ai plus envie. Donc, j'ai attendu. En fait, moi, je me fie beaucoup à mon ressenti, à mon intuition. Je me suis dit, il y a un jour où ça va être clair, limpide et je verrai ce qui se passe, quoi. Donc, j'étais en Alaska à ce moment-là. Et je suis un peu radicale comme fille. Donc, moi, j'étais partie loin, quoi, à l'autre bout du monde en me disant, je vais aller me mettre dans un endroit où personne ne viendra me donner son avis. C'était parfait parce que j'avais besoin à la fois d'être dans la nature et d'être loin de tout le monde parce que finalement, les gens, à ce moment-là, projettent toutes leurs croyances et leurs peurs sur vous. Et donc, c'est bien, à ce moment-là, de se préserver et de vraiment vivre les choses et de les ressentir, quoi. Donc, au bout de 3 mois, j'ai eu ce truc qui m'a dit « Ok, c'est bon, c'est fini ». Donc là, j'ai décidé d'arrêter. J'ai communiqué à mon équipe, à mes sponsors et tout ça. Et là, après, je me suis dit, bon, ben là, il y a tout un processus qui doit se mettre en place. Moi, en fait, toute ma carrière, est toujours, hein, j'ai été suivie par une dame qui a plein de casquettes, qui est médecin, médecin du sport, naturopathe, ostéopathe, enfin, et qui a vraiment une approche holistique de la santé.
D'accord.
Et c'est la première personne que je suis allée voir quand j'ai arrêté. Et elle m'a dit, oh, ben là, tu vas aller voir, je te donne un contact. Et donc, je suis allée voir un psychiatre. Ça a été... vraiment la première démarche, donc ça a été de faire ce travail avec ce psychiatre. Et après, là, c'était dans les Pyrénées, donc après, je suis retournée dans les Alpes et j'ai continué un suivi avec un psychologue. Et ça m'a aidé à comprendre ce qui était de mon ressort, à la fois, voilà, qu'est-ce qui m'avait poussée à être performante très tôt, mais aussi quelles avaient été mes limites, mais aussi, quelque part, de me décharger des choses qui m'appartenaient pas forcément. En fait, moi, j'avais tendance à tout prendre sur moi, toute la responsabilité. Donc, j'étais responsable de mon état, ce qui était vrai, mais j'avais accessoirement quand même plein de gens autour de moi, des médecins, quoi, un médecin, des entraîneurs, qui en fait avaient aussi leur rôle à jouer là-dedans. Donc, ça m'a fait aussi du bien de me dire, en fait, bon, je suis pas toute seule là-dedans, j'ai ma part de responsabilité, mais pas que. Sans dire c'est eux les responsables. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est important aussi de redistribuer les cartes. Et pour autant, je leur en veux pas, il n'y a pas du tout d'animosité, mais c'est aussi de juste reconnaître les choses. Et chemin faisant, j'ai pris ce temps et puis aussi de voir ce qui m'animait dans la vie, donc de refaire des choses qui me faisaient plaisir. Donc j'ai repris l'escalade parce que je sentais vraiment que c'était quelque chose qui m'animait et que j'avais mis de côté volontairement pendant ma carrière parce que j'avais cette croyance que si j'allais en montagne ou que j'allais grimper, ça me sortirait de mon objectif. Là encore, on est tous faits parfois de pensées limitantes. Et c'est bon, justement, de voir qu'on peut continuer à faire ça et que ça ne va pas nous empêcher de performer. Mais ça, je ne le voyais pas. Donc, c'est pour te dire dans quel état j'étais. Donc, en fait, j'ai repris à faire des choses qui me motivaient, qui étaient positives pour moi. Et puis, petit à petit, j'ai re-rempli cette citerne. Jusqu'au moment où j'ai pu... vraiment considérer et me projeter sur ce que j'avais envie de faire professionnellement. Donc, ça s'est fait vraiment par étapes, beaucoup de rencontres. Par contre, j'étais vraiment proactive là-dedans. Et ça, je pense que c'est important pour les personnes qui ont connu un épisode de fatigue très importante ou un burn-out. c'est aussi de s'entourer de personnes inspirantes qui ont une bonne énergie, qui nous mettent dans une bonne dynamique. Et laisser de côté les gens qui vous plombent et qui vous polluent, quoi. Ça sera le petit conseil gratuit du jour. Par moments, c'est bon d'être un peu égoïste et de se recentrer sur soi. Et ça n'empêche pas qu'après, de nouveau, vous ferez du bien aux autres. Mais là, quand on a déjà plus d'énergie, il ne faut pas les en donner et l'éparpiller, quoi.
Donc, il y a ces notions, et j'ai trouvé c'est hyper intéressant de se déculpabiliser. Il y a une responsabilité qui est partagée, c'était une situation d'ensemble. Il y a cette notion de se reprojeter vers l'avenir, de prendre son temps, accepter que c'est une vraie période. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas deux semaines, ce n'est pas quelques mois, ça peut être beaucoup plus que ça. Et retrouver donc ces drivers, ces les manières pour remplir un peu sa citerne, c'est bien ça.
Ouais.
Finalement, les conseils que tu auras envie de donner aujourd'hui, quoi.
Ouais, et puis moi, en tout cas, à ce moment-là, ce qui a été important pour moi, c'est de me projeter dans un endroit où j'avais envie de vivre et qui serait bien pour moi. Donc, ouais. En fait, je savais pas ce que j'allais faire.
Ouais.
Et donc, j'habitais dans le Vercors pendant ma carrière. Et quand j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit, où est-ce que je me vois vivre ? Et donc, j'avais fait mes études à Annecy et je me suis dit, Annecy, c'est parfait pour moi. Et donc, en fait, j'ai carrément acheté un appart à Annecy. Mais voilà, je ne savais pas ce que j'allais faire, de quoi j'allais vivre, mais je me suis dit, en fait, c'est important que je vive là où je vais me sentir bien. Parce que ça va aussi contribuer à mon équilibre et donc après, à ce que je fasse des choses qui font sens pour moi. Après, faut être clair aussi, je pense que j'avais cette possibilité, je ne vais pas dire chance, parce que les choses, je ne crois pas à la chance et je crois que on construit les choses. J'avais cette faculté à pouvoir un peu prendre mon temps parce que financièrement, je n'étais pas à la rue et que le biathlon m'avait permis quand même de mettre de l'argent de côté et donc de pouvoir prendre ce temps sans avoir le couteau sous la gorge et me dire il faut absolument que je fasse un job alimentaire. Donc ça aussi, je temporise parce que j'avais ce privilège-là et je sais que tout le monde n'a pas ça. Mais par contre, vous avez, peu importe si vous avez les moyens ou pas, mais vous avez du temps et la possibilité de faire l'inventaire de votre vie. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire.
Et il y a une étude de l'Antwerp Management School qui dit qu'il y a une personne sur quatre qui fait un burn-out, qui peut faire à nouveau un burn-out. Il y a un risque de rechute qui est assez élevé. Est-ce que toi, tu as mis en place des garde-fous ? Tu fais attention à... Tu vois ?
Ah bah moi, c'est au quotidien que je fais attention.
D'accord, bah, très bien.
Alors, moi, ce qui est sûr... Enfin, moi, ma croyance, c'est qu'il y a des profils qui sont peut-être plus sensibles à faire des burn-out que d'autres. Moi, je suis une passionnée. Donc, une passionnée qui a 10 000 idées à la minute et fonceuse et travailleuse. Donc, en fait, je peux aller très loin dans mes projets. Ce qui est une chance, je pense que c'est une vraie compétence, mais c'est aussi ma limite. Donc en fait, moi, en permanence dans ma vie, je cherche mon équilibre. Et c'est compliqué, hein. J'y travaille chaque jour. Donc moi aussi, je me fais coacher, hein. Je continue à bosser sur moi en développement perso pour aussi comprendre mon fonctionnement, quoi. Donc oui, je pense que c'est vraiment un travail au quotidien et quelque part, c'est une hygiène de vie qu'on doit respecter pour éviter la récidive.
Oui, toujours finalement faire ce pas de côté, que ce soit à son propre niveau, voire donc avec quelqu'un qui t'accompagne, pas de côté que toi t'aides à faire pour les athlètes que t'accompagnes et qu'un coach ou une coach t'aide à faire toi en tant que personne.
Ouais, bah en fait je vais être un peu cash, mais je déteste les coachs. Tu vois, on a tous en nous l'image d'un coach qui en fait ne représente en rien ce qu'il dit de faire quelque part. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Et pour moi, déjà ça ne devrait pas exister parce qu'on parle en tant que voilà, on accompagne des personnes, donc on doit avoir de l'éthique, de l'intégrité et à minima quand même être aligné, quoi. Donc moi, c'est clair que dans ma projection de mon métier, c'est important pour moi que je sois bien dans mes baskets si je veux être en capacité de bien accompagner les autres. Donc c'est clair que moi, de mon côté, je continue à faire le job pour être aligné et bien dans ma vie, bien dans mes baskets.
Oui, ça revient au concept d'intervision ou de supervision, donc qui existe dans le coaching ou dans la psychologie, de je vais échanger avec des pairs ou un superviseur qui peut m'aider à prendre du recul ou à m'aider à me questionner sur certaines questions auxquelles je n'ai pas forcément
les réponses. Sur mes pratiques, sur tout ça, ouais. C'est important.
Et donc cette reconversion en accompagnatrice mentale, ça s'est fait comment est-ce que tu es arrivé à cette envie de ce rebond finalement?
Ben en fait, grâce à la thérapie que j'ai pu faire et puis voilà, cette prise de recul, je me suis rendu compte que finalement, à certains moments dans ma carrière, ben, j'avais été bien alignée et puis performante. Et puis d'autres moments, ben, j'étais à côté de mes pompes et pleine de croyances qui m'empêchaient quelque part de trouver mon vrai système de performance. Ça, je me suis dit, mais en fait, c'est dingue parce qu'on a tous en nous un potentiel de fou. Hein, en vrai, on a tous beaucoup de potentiel, mais tant qu'on ne l'active pas, ça reste quelque chose d'abstrait et c'est de la littérature. Hein. Donc ça m'a motivée à me dire, bah, finalement, à certains moments de ma carrière, j'ai pu toucher du doigt cette capacité à mettre mon potentiel en action et puis des moments où j'étais limitée. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, j'ai vraiment envie d'accompagner les autres à réaliser leurs rêves et à le faire bien quelque part, que ce soit bien pour eux. En parlant avec Laurent Schmitt, qui est la personne en France qui maîtrise le mieux toute la notion de test HRV, la variabilité de la fréquence cardiaque et aussi l'hypoxie, parce que lui travaillait après maintenant le Centre national de ski nordique, il me dit, mais va à l'INSEP, il propose plein de formations. Et pour moi, l'INSEP, c'était un centre d'entraînement, mais je ne savais pas qu'il faisait des formations. Donc en fait, je suis partie à l'INSEP, j'ai toqué, j'ai dit bonjour, j'aimerais avoir un rendez-vous pour savoir quelle formation vous proposez. Je n'avais rien regardé de leur site et tout. Et puis donc là, je passe un entretien et finalement, il m'explique qu'il y a une formation d'accompagnement mental qui va... Enfin, une session qui va démarrer. Mais normalement, il faut avoir 10 ans d'expérience en dehors de la pratique en tant qu'athlète pour avoir juste un minimum de recul.
D'accord.
Et en fait, comme ils ont vu, grâce à la thérapie et tout, que j'avais du recul, j'ai pu intégrer cette formation. Et clairement, je ne savais pas ce que j'allais faire là-bas. Mais mon intuition m'a dit, c'est la bonne formation, quoi.
Ouais.
Donc en fait, je me suis engagée dans cette formation. Qui a un coût à la fois financier, mais aussi en tant qu'investissement humain, quoi, parce que ça challenge énormément. Et voilà, donc j'y suis allée. Et en fait, j'ai senti que j'étais vraiment au bon endroit. Donc, c'est une formation qui a duré 2 ans et demi, qui a été très riche pour moi, à la fois dans l'apprentissage de techniques d'accompagnement, mais aussi sur le plan du développement personnel, parce que la particularité, c'est qu'on apprend les techniques tout en nous continuant notre travail et notre développement personnel. Donc, ça met en mouvement. Et en fait, oui, à ce moment-là, j'ai senti que j'étais vraiment au bon endroit. Et pour moi, c'était clair, je voulais vraiment en faire mon métier, pas juste avoir cette casquette. Il y en a beaucoup qui sortent de la formation et qui intègrent les techniques dans leur métier. Mais pour moi, c'était clair, je voulais faire ça et dans l'entreprise.
D'accord.
Donc, j'ai commencé la formation comme ça. Donc, j'étais à l'INSEP, quand même, le haut lieu du sport français, ouais. En disant, je viens ici, mais moi, je veux faire de l'accompagnement mental en entreprise et pas dans le sport de haut niveau.
Oui, parce que justement, en fait, tu nous as dit que tu accompagnais une vingtaine d'athlètes, c'est ça, dans 15 disciplines différentes. Est-ce que tu accompagnes aussi des managers?
Ouais, j'essaie de garder des places aussi pour continuer à accompagner des managers ou des dirigeants, parce que pour moi, c'est... Voilà, l'entreprise est vraiment un univers qui m'a toujours attirée.
Ouais.
Et quand j'ai arrêté le biathlon, j'ai hésité à partir faire une école de management, quoi. Donc, c'est pour
D'accord.
dire... j'aurais pu me retrouver à faire du marketing ou de la communication aussi. Donc, en fait, j'avais d'autres aspirations. Et donc voilà, je voulais faire vraiment en entreprise. Et petit à petit, il y a des athlètes qui ont su que je me formais, qui sont venus me chercher. Et je me suis dit, finalement, c'est top d'accompagner dans le sport de haut niveau. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve vraiment à fond dans le sport. Et c'est un choix. Hein. C'est que vraiment, je m'éclate et j'adore la performance, il faut être clair. Et donc, ça m'éclate de les accompagner dans leurs projets. Mais je garde aussi un peu en entreprise parce que ça me permet de voir autre chose. Et ça, c'est agréable.
Et alors, aujourd'hui, donc, comme tu accompagnes des dirigeants ou des managers, quel parallèle, quelle chose en commun tu vois, quel dénominateur commun tu vois entre l'athlète de haut niveau et le ou la dirigeante?
C'est ce que je vois comme point commun entre un dirigeant et un athlète de haut niveau, c'est leur capacité à se fixer des objectifs et des ambitions élevées et à tout mettre en œuvre pour les déployer. Moi, je suis certifiée sur un outil de profilage qui s'appelle le Color Disc.
D'accord.
Et en fait, clairement, dans les profils, souvent, on retrouve vraiment des tendances entre un chef d'entreprise et un athlète de haut niveau. Et c'est aussi pour ça que quand on est athlète de haut niveau et qu'on parle avec un chef d'entreprise, souvent ça matche parce qu'en fait, il y a des dénominateurs communs. Et voilà, c'est des fonceurs, c'est des personnes engagées, passionnées, qui ne comptent pas leurs heures. Mais ça peut aussi pousser justement à des dérives et à des limites. Mmh. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi dans le fait d'accompagner des dirigeants pour les amener à se recentrer, à retrouver un équilibre de vie, et aussi une écologie personnelle. Qu'est-ce que j'entends par écologie personnelle ? C'est vraiment la capacité à identifier, comprendre ses besoins et à les respecter. En tout cas, faire en sorte de les respecter pour justement maintenir un niveau de performance de manière durable.
Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Avant de terminer, je vais te proposer un petit jeu, un jeu qu'on appelle le jeu du tac au tac. C'est-à-dire que je vais commencer une phrase et je vais te laisser la terminer en un mot.
Ok.
Alors, quand j'ai du mal à me lever le matin,
je me lève.
D'accord. Simple et efficace. Ce qui me donne de l'énergie au quotidien, c'est
la nature.
Ce qui me prend de l'énergie au quotidien, c'est
un mot, t'as dit?
Un mot, ouais, ou une expression ou une phrase.
Les gens qui se plaignent.
Ok. Le moment où j'ai le plus douté, c'est
à la fin de ma carrière.
Quand je ne me sens pas bien, les mots qui me réconfortent sont
il y a toujours du soleil après la pluie.
Si j'avais un secret du mental à partager, ce serait
écoute ton intuition et en fait les réponses elles viennent toutes seules parce que tu les as au fond de toi. Alors c'est plus qu'un mot, mais ça c'est important.
Et si je devais écrire mon autobiographie, le titre serait
L'après.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé sur lequel tu te dis tiens c'est dommage qu'on n'ait pas dit un mot là-dessus?
Non, c'était très complet. Alors, t'as vu, hein, je suis très bavarde. On aurait pu y rester 3 heures, mais t'as bien bossé. Donc, franchement, on a bien fait le tour, je pense, du sujet.
Merci, Maria. Et dernière question. Quel athlète tu voudrais voir intervenir dans ce podcast?
Alors, moi, j'aimerais bien entendre Amélie Cazé, qui était une pentathlète.
Okay.
Et qui aujourd'hui fait aussi de l'accompagnement mental. Et tu verras, ça sera très intéressant d'avoir sa version.
Bah, génial, on va la contacter alors. Merci beaucoup Marie-Laure.
Ben, merci Guillaume et à très bientôt.
À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Secrets du Mental. S'il vous a plu, vous pouvez le partager, vous abonner et même nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est grâce à ce petit geste que vous nous aidez à faire grandir ce podcast et à convaincre les plus grands athlètes de venir témoigner. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont Moka.care peut aider votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter via le lien dans la description. Ensemble, on peut faire bouger les lignes et déstigmatiser la santé mentale. Merci encore et à bientôt.